Bien. Alors bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse. Ce soir on fait la réunion au château parce qu'on ne sait pas pourquoi il y a une panne d'électricité à la chapelle. Alors qui dit panne d'électricité encore, on peut mettre des bougies, mais alors le chauffage, bonjour les dégâts. On dirait on peut faire du feu dans la cheminée, mais bon, je ne sais pas pourquoi on n'a pas fait, enfin il y a eu tout un problème, des toutes sortes de trucs qui font que ce soir on est là au château. On n'est pas plus mal au château, hein? C'est bien au château aussi, parce qu'on a besoin d'une chapelle. C'est vrai. Est-ce que les premiers chrétiens avaient des chapelles? On n'en sait rien. La Bible dit qu'ils allaient au temple. Ce n'était même pas leur temple à eux, c'était le temple de la religion juive. Bon, oui, ils n'étaient pas regardants. Hein. Bien, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 et 11 à 11. C'est une longue lecture. On arrive à la fin de l'année, donc je me permets de faire une lecture au sujet du temps. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire, un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille tire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Amen. Et puis j'aime bien aussi le verset suivant. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux, c'est-à-dire pour nous, qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter, rien à y retrancher, et que Dieu agit ainsi, afin qu'on le craigne. Ce qui a déjà été fait, c'est ce qui sera. Ce qui a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors on peut se demander, mais c'est quoi alors la volonté de Dieu dans tout ça? Qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu? Puisque Jésus dit que seuls ceux qui font sa volonté seront sauvés. On est un peu embêté là, parce que on ne peut rien comprendre, il dit lui-même, on ne peut pas comprendre ce que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Bon, c'est toute chose belle en son temps, mais qu'il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui est planté. Enfin voilà, il y a tout et son contraire. Alors là, maintenant, là, tout de suite, c'est quoi le plan de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu? Eh bien, il faut que vous sachiez que, là je m'adresse à des chrétiens, je m'adresse à des gens qui croient en Jésus-Christ, qui ont reçu son appel, qui se sont repentis de leurs péchés. Eh bien, sa volonté, c'est le salut. C'est le salut. Un chrétien peut se trouver sous la pluie ou sous les rayons bienfaisants du soleil, bien que la pluie c'est aussi bienfaisant de temps en temps, il peut se trouver dans n'importe quelle circonstance. Ces deux éléments, la pluie et le soleil, nous parlent des temps où c'est l'abondance, des temps où c'est le manque d'abondance, où c'est un peu les difficultés. Et quand nous nous trouvons dans des difficultés, ce sont des choses qui n'échappent pas à Dieu. Ce sont des choses qu'il connaît déjà à l'avance, et ce qu'il veut pour nous, c'est le salut. C'est-à-dire, au sein de la maladie, le salut, c'est la guérison. Le salut dans la disette, eh bien, c'est le travail, c'est avoir du travail et gagner de l'argent. Le salut dans le danger, c'est la protection de Dieu. Il veut notre salut en toute chose. Et s'il veut que tu aies ce salut, il l'a rendu donc possible. Il l'a rendu facile à obtenir, parce que sinon il n'y aurait que les gens intelligents et très forts qui arriveraient. je serais exclu. En tout cas, pour très intelligent. Tu n'as pas à chercher très loin ton salut. Déjà, tes frères et tes sœurs sont partout autour de toi. Chaque minute, chaque seconde, tout ça, ça existe. Chaque minute te donne une chance de plus de te sauver toi-même. Et tes frères et sœurs sont là pour t'aider. Regardez ce qui s'est passé là avec notre frère Philippe et Toufig. Ça a mobilisé des gens, des bonnes volontés, toutes sortes de choses. Alors, ce qu'il nous faut, c'est ne pas perdre nos chances. Non pas parce qu'elles ne reviendront plus, mais seulement parce qu'on n'a pas besoin, et c'est bête, de retarder nos joies. C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre nos chances. Dieu veut le bonheur pour toi maintenant, si seulement tu peux croire ça. Au sein de la difficulté, dans la maladie, dans la disette, dans n'importe quelle situation, sous la pluie ou sous le soleil, Dieu veut le bonheur pour toi maintenant. Est-ce que c'est possible que ce ne soit pas ta volonté aussi, ton bonheur? Est-ce que tu es malade au point de ne pas vouloir le bonheur? Est-ce qu'il est possible que ton bonheur, ce ne soit pas la volonté des frères et sœurs? Est-ce que tu peux penser que tes frères et sœurs, ce qu'ils veulent, c'est t'embêter? Est-ce que tu peux penser que Dieu veut t'embêter? Pourquoi est-ce que tu penses que tu es le seul à vouloir ton bonheur? Vous savez, on avait quelqu'un qui était comme ça, il pensait qu'il était seul à avoir raison. Puis tout le monde avait tort. C'est une volonté, la volonté du salut, c'est une volonté qui est conjointe. En elle, tous les disciples sont réunis. On peut avoir des choses où on n'est pas d'accord, on peut avoir des désaccords sur beaucoup de points, mais pas là-dessus. Là-dessus, on est tous certains d'une chose. On veut le salut, on veut le bien, on veut le bonheur de l'autre, on veut notre bonheur. C'est sûr. Personne ne dit « Ah, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour me foutre la journée en l'air ?» Personne. Enfin, j'espère du moins. Là, j'ai bien précisé, au début, je parle à des chrétiens. On ne peut pas être disciple de Jésus et ne pas vouloir le salut de ses frères et sœurs. On ne peut pas être un disciple de Jésus et vouloir leur malheur. Parce que c'est là que la paix demeure. Et tu demeures dans la paix quand? Quand tu le décides. Quand tu le veux vraiment. Paix aux hommes de bonne volonté. Je crois que dans toutes les églises et chapelles du monde entier, on va citer ce texte. Paix aux hommes de bonne volonté. C'est Noël, hein? Or, tu ne peux pas demeurer dans la paix si tu n'acceptes pas l'expiation. Ce que je vous ai prêché il n'y a pas longtemps. L'expiation, c'est-à-dire la purification. Tu ne peux pas, parce que l'expiation, c'est la voie, la seule voie vers le salut, vers la paix. Tu ne peux pas passer, tu ne peux pas avoir la paix sans ça. Tu dois accepter cette idée de la purification de tes péchés et des péchés des autres. Sinon, ce n'est pas la paix, ce n'est pas possible. La raison de cela, que l'expiation c'est la voie, la seule voie vers la paix, c'est une évidence, c'est une chose simple. Et c'est justement parce que c'est simple et parce que c'est évident que ça passe inaperçu aux yeux du plus grand nombre. Pourquoi la simplicité de l'évangile, pourquoi la simplicité de la bonne nouvelle, du salut, de l'expiation, Jésus a porté nos fautes, il nous a purifiés. Pourquoi ça passe inaperçu? Parce que l'ego n'aime pas ce qui est simple. L'ego n'aime pas ce qui est évident. Il en a peur. Il a peur de ce qui est évident. Parce que ce qui est évident est la caractéristique de ce qui est essentiel. Et l'ego ne cherche pas ce qui est essentiel. Il est fou. Dieu regarde avec amour tout ce qu'il perçoit, tout ce qu'il perçoit. Il te regarde, toi, avec amour. Et son évaluation de toi, elle est basée sur sa connaissance de qui tu es. Ainsi, il t'évalue vraiment parce qu'il connaît qui tu es. Alors je vais te dire, cette évaluation vraie, elle est en toi parce que Dieu est en toi, mais maintenant. ton ego est ce que tu es devenu par tes expériences, mais ce n'est pas toi ton ego. Ton ego, c'est une accumulation de choses, de ce monde, d'informations, d'émotions, de vérités, de mensonges, un espèce de gros mélange, une bouillabaisse, mais pas une bonne, parce qu'il y a des bonnes et des mauvaises, là c'est une mauvaise bouillabaisse. C'est ce qui fait que les personnes sont perdues, les âmes sont perdues, âme ça signifie être vivant, les êtres vivants sont perdus, sont dans la confusion. Il ne faut plus accepter cette évaluation de ton ego. Arrête, n'accepte plus de t'évaluer avec les yeux de ton ego. Ton ego, c'est cette accumulation de choses que tu as apprises par ton expérience et il y a trop de chenilles là-dedans, comme on dit en Suisse, c'est-à-dire de désordre, de choses fausses mélangées avec du vrai. Son évaluation de toi, l'évaluation de ton ego, elle est presque exactement à l'opposé de l'évaluation du Saint-Esprit à ton sujet. Parce qu'il y a quelques vérités dedans, sinon tu ne pourrais pas y croire. Ton ego ne t'aime pas. Ça c'est clair. Il faut que vous commenciez à croire ce que Dieu dit. Il est inconscient de qui tu es. Il est méfiant à l'égard de tout ce que tu perçois. Parce que ses perceptions, elles sont changeantes et il le sait. Vous savez quoi? Votre ego et le mien est capable au mieux de suspicion et au pire de méchanceté. Et vous voulez faire confiance à ça? Et vous voulez vous évaluer avec ça? Il ne peut pas aller plus loin parce qu'il est plein d'incertitudes. Parce que ce qu'il connaît, c'est ce qu'il a appris, et ce qu'il a appris, il l'a appris dans le monde. Et voilà pourquoi Jésus dit, n'aimez pas ce qui est dans le monde. Et il y a des bonnes choses. Il ne dit pas de ne pas aimer les bonnes choses. Il dit, n'y accordez pas votre cœur. Ne vous y attachez pas. Notre ego, il ne peut pas aller plus loin parce qu'il ne peut jamais, jamais être certain. Quand quelque chose arrive, par exemple cette histoire avec Philippe, pourquoi est-ce que c'est arrivé? Alors, ça va dépendre de l'ego des uns et des autres. Alors, il y en a qui ont dit, mais pourquoi tu penses que c'est arrivé? Est-ce que Dieu veut nous apprendre quelque chose? Oui, peut-être bien. Bon, on verra, hein. Je ne vais pas me casser la tête. S'il veut me faire comprendre quelque chose, il est assez grand pour me le faire comprendre. S'il veut que je le comprenne, ça va être accessible. Je ne vais pas commencer à me torturer les méninges. Parle, Éternel, ton serviteur écoute, fais-moi comprendre. Et puis, est-ce que j'ai vraiment besoin que des choses comme ça m'arrivent pour comprendre les choses de la vie? Est-ce que Philippe va apprendre quelque chose? Peut-être, peut-être pas. Est-ce que ça a une nécessité? Peut-être, peut-être pas. En tout cas, une chose, Dieu fait toute chose belle en son temps. C'est ce qui est écrit. Est-ce que je peux croire ça? Oui. Alors si je commence à croire ça, c'est que mon ego ne va pas être content du tout. Voilà pourquoi il y a en chacun de nous deux évaluations qui sont en conflit et des questions qui n'ont pas lieu d'être. Ces deux évaluations, elles ne peuvent pas être vraies toutes les deux. Ce n'est pas possible. Quand Apocalypse 3 nous dit « Tu es aveugle, pauvre, misérable et nu et tu ne le sais pas », qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie beaucoup de choses, j'ai déjà beaucoup enseigné sur cela. Mais ça signifie aussi que tu ne sais pas, tu ne comprends pas à quel point la perception du Saint-Esprit est élevée à ton sujet. Rien de tout ce que tu dis, de tout ce que tu penses, de tout ce que tu fais, ne peut étonner le Saint-Esprit. Rien ne peut le tromper. Parce qu'il sait qui tu es et il ne l'oublie jamais. Et vous savez, quand tout devient pire dans la vie, c'est pas quand le soleil s'en va puis que c'est la pluie. C'est-à-dire, c'est pas quand il y a tout à coup un gros problème qui arrive, comme ce qui vient d'arriver à Philippe, ou au petit Samuel, ou voilà le deuil qui a frappé ma famille, je ne sais pas ça. Quand ça devient impie, c'est quand notre ego, attention, j'ai bien assis, c'est quand notre ego se met à prier. Parce qu'alors la confusion de notre ego augmente encore. Et si tu es un être sensible, si tu n'es pas un être sensible encore, ça peut aller. Mais si tu es un être sensible, ton ego va commencer à te brusquer. Par exemple, il va se mettre à t'attaquer sur tes motivations. Tu pries, mais pourquoi ? Tu crois vraiment que Dieu, il n'a rien d'autre à faire que ça ? Et puis tu pries pourquoi ? Tu veux t'en sortir encore une fois de plus. Tu viens mendier encore une fois de plus. Est-ce que tu fais là, ce que tu demandes là ? C'est encore bien de l'égoïsme, tout ça, sa démarche. Voilà la démarche de l'égoïsme, de l'ego. Non, mais c'est tordu. La Bible dit le cœur de l'homme est tordu. Il n'y a rien de plus tordu que ça. Et voilà pourquoi je vous dis, ce n'est pas votre ego que vous devez écouter, mais le Saint-Esprit. C'est pourquoi, avant de prier, il faut mettre de l'ordre dans nos pensées. Avoir un temps d'arrêt, pas être comme ça, en train de faire toutes sortes de trucs. On va prier, oh Seigneur, notre Dieu, nous te prions. Non. Ou alors il arrive une catastrophe et se mettre tout à coup, boum, comme ça à prier. Il faut être dans un état d'esprit de prière. C'est pourquoi la Bible dit prier sans cesse, parce qu'il faut être dans cet état d'esprit. On doit entretenir ça, et ça au quotidien. Se mettre en ordre, mettre nos pensées en ordre. C'est-à-dire choisir, c'est-à-dire décider de croire dans l'expiation, de croire dans ta purification par le sang de Jésus. Tu peux croire que tu n'es pas aimé, mais tu ne seras pas heureux. Si tu crois que tu n'es pas aimé, tu te condamnes toi-même. Qui te condamne ? Moi ? Non. Qui te condamne ? Et quelle importance si un homme ou une femme te condamne ? Est-ce que Dieu te condamne ? Si tu crois que tu n'es pas aimé, tu te condamnes toi-même, tu te considères insuffisant. Et puis tu peux rien attendre de ton ego pour échapper à ce sentiment d'insuffisance. Qu'est-ce que tu peux attendre de ton ego ? C'est lui qui a créé ce sentiment d'insuffisance. C'est pour ça que la Bible dit qu'il y aura des vierges folles, c'est-à-dire des gens qui se disent chrétiens, mais qui n'ont pas été au fond des choses, de l'enseignement de la parole de Dieu, et qui écoutent plus leur ego que la parole de Dieu. Ton ego, il a produit ce sentiment d'insuffisance. Et il doit le maintenir pour assurer son existence. C'est un instinct. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas qu'on me tienne pour rien. Voilà ton ego. Et pourtant, Jésus, lui, c'est ce qu'il veut. C'est que ton ego, il meure. C'est que tu meurs à toi-même. C'est ce que Jésus veut. Il veut que tu meures, que ton ego meure. Ah, faut mourir à soi-même, ça veut dire quoi ? Alors, on peut prendre ça au premier degré, ou au degré 0,2, ou 0,3. Ah, mourir à soi-même, c'est renoncer aux bonnes choses de la vie, oui. Renoncer à soi-même, c'est... Mais non, c'est pas ça. Dieu a fait les meilleures choses pour que ses enfants puissent en profiter. Mais renoncer à son ego, c'est arrêter de lui donner l'importance qu'il n'a pas, arrêter de l'écouter, arrêter ça. C'est lui, ton ego, et celui des autres, qui a créé tous les problèmes que vous voyez sur la terre. En fait, les problèmes viennent du fait que l'homme vit sans Dieu, sans croire Dieu, sans s'occuper de ce que Dieu veut. Tous les problèmes viennent, la Bible dit, du péché. C'est-à-dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire de l'erreur. L'erreur, c'est d'être incrédule. Le péché, c'est d'être incrédule. De là vient tout le reste. Et Jésus est venu pour nous délivrer de cette erreur, nous purifier cette erreur, l'expiation. Il est venu pour nous délivrer de cette fausse évaluation
cette fausse évaluation de qui il est, de qui je suis, de qui vous êtes, de ce que sont les choses, de ce que sont les temps, de ce que sont les situations. On a des fausses évaluations là-dessus. Il est venu nous délivrer de ça. C'est ça le salut. C'est pas seulement salut pour quand on est mort au paradis. C'est pas ça seulement. Si c'était déjà que ça, ça serait parfait, mais c'est plus que ça. Et quand il est venu nous sauver, c'est pour un salut parfait. Le salut parfait comprend tout ce que nous pouvons et décidons de croire. Alors vous allez me dire, oui, mais alors la prédestination, de toute façon, Dieu a tout décidé à l'avance, alors qu'est-ce qu'on peut décider de croire? Qu'est-ce qu'on peut choisir de croire? Puisqu'on est prédestiné. Puis de toute façon, si Dieu ne nous révèle pas la chose, comment est-ce que... Mais vous avez été prédestiné à recevoir sa plénitude, n'est-ce pas écrit? Vous avez été prédestiné à recevoir ses révélations, n'est-ce pas écrit? Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ, donc ça veut dire que c'est en Jésus-Christ que vous devez aller, non pas rester à cogiter dans votre ego. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous osions monter sur la balance. Et il y a un temps pour toute chose, il y a un temps pour être en bas de la balance, et il y a un temps pour être sur la balance. Si tu crois que c'est maintenant, c'est bien, ça sera maintenant. Si tu crois que tu n'es pas prêt, c'est bien, tu n'es pas prêt. Tout dépend ce que tu crois. Ose monter sur la balance pour comparer ton poids avec son poids. Quand je dis poids, je dis gloire, parce que le mot gloire, ça signifie poids, le poids de Dieu. Ose comparer ton poids avec le poids de Dieu. On ose comparer. Ce n'est pas autrement que par ce contraste que l'insanité peut être jugée insane. On ne peut pas en juger autrement que par la comparaison. D'ailleurs, on n'arrête pas de se comparer. Oui, lui, il est plus musclé que moi, mais moi, je suis moins musclé que lui. Oui, il est noir, moi, je suis blanc, on se compare tout le temps. Ah, ben, je suis grand, mais par rapport à lui, je suis petit. Ah, je suis riche, mais par rapport à lui, je suis pauvre. Il y a toujours un plus grand, un plus petit, un plus pauvre, un plus riche, un plus intelligent, un moins intelligent, un plus vieux, un plus jeune. On est toujours en train de se comparer. Alors, arrêtons de nous comparer à d'autres égaux, mais comparons-nous directement avec celui qui nous a créés. Et puis, commençons à l'écouter lui. Sois honnête et va vers la grandeur. Puisque tu le sais maintenant, ça t'est révélé. Le prophète disait, la profondeur appelle la profondeur. Je dis, la grandeur appelle la grandeur. Avec la grandeur de Dieu en toi, ne te lamente plus sur ta petitesse. Maintenant, elle existe, mais ne te lamente plus dessus. Ne te cache plus dessus pour te permettre de commettre des choses qui finalement... déplaise à Dieu et te déplaise à toi, cesse d'écouter ton ego qui n'est certain de rien. Dans Hébreux 11, il nous est dit que la foi, c'est une certitude. Mais ce n'est pas l'ego qui peut avoir la certitude, c'est notre esprit. Alors la Bible nous dit de marcher par l'esprit et non pas par l'ego, par la chair. La certitude. La foi, c'est la certitude des choses qu'on espère. La certitude de quoi? De tout ce que tu espères. Et tu ne peux espérer que les choses qu'il a promises. Je vous ai dit, le salut est accessible. Il veut nous sauver, il nous donne le moyen d'atteindre ce salut. Donc, ce qu'on peut comprendre, ce qu'on peut croire, dans ce qu'il a dit, c'est ça, ce sont les véritables promesses. Tout ce que tu peux espérer, tu peux l'avoir. Et si tu limites Dieu à ton ego, eh ben, tu auras un petit Dieu, des petites promesses, une petite vie. Qu'espères-tu? Alors écoute bien ça. À l'intérieur du système qui a dicté ton choix, à l'intérieur de tout ça, eh bien les lamentations sont inévitables. Ta petitesse, c'est un fait établi. C'est là-dedans, c'est dans ce système. Ça ne sert à rien de demander pourquoi. Pourquoi un tel qui était si fidèle, si bien, est mort d'une maladie si affreuse. Pourquoi un tel qui a marché avec Dieu et a guéri tant de gens au nom du Seigneur Jésus-Christ est mort de maladie? Pourquoi c'est l'ego qui se pose des questions comme ça. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui pose des questions comme ça. Ce n'est pas par le Saint-Esprit qu'on se pose des questions comme ça. Ton ego ne sait pas ce que c'est une vraie question, parce qu'il ne connaît pas la vérité. Jésus est la vérité. Alors, ce qui nous sauve, nous dit Jésus, c'est la foi. Et confiance. Et confiance. En ce que Dieu dit, et il dit qu'il t'aime, fais confiance. Fais confiance, crois qu'il a compté tous tes jours avant que tu viennes au monde, qu'il connaît tout, qu'il vient en toi, et que lui, il a choisi, dès avant la fondation du monde. Crois ça. Et puis ensuite, il a aussi choisi une chose, c'est que pour communiquer avec toi, c'est par le moyen de l'enseignement. Il a donné à l'Église pour qu'elle mûrisse des enseignants, pour t'éclairer. Pour t'éclairer dans tes pseudo-choix. Parce qu'en fait, il fait ce qu'il veut. Et les enseignements viennent au moment où tu en as besoin. Si tu crois, sinon tu laisses passer la chance. Puis elle reviendra, ça revient toujours. Dieu donne encore et encore et encore. Il est gentil, il est patient. Et de toute façon, c'est lui qui fait toutes choses à merveille. Et toutes choses belles en son temps. Alors, si pour le moment tu n'y crois pas, bon, c'est pas grave, simplement tu... Hein, si tu as les moyens d'être encore triste, c'est super. Moi, j'aime mieux être dans la paix, dans la joie. C'est comme tu veux. Ce qui t'apaise, ce qui peut t'apaiser, c'est la croyance qu'il t'a déjà sauvé, qu'il ne veut que ton salut dans toutes les situations où tu crois. Cette croyance-là, elle t'est proposée par un exposé écrit qui est la révélation de ce que Dieu veut. La Bible. Il n'y a pas besoin de te parler. Si tu veux comprendre et que tu pries pour comprendre Dieu, alors qu'il a déjà tout expliqué dans la Bible, ton ego va être dans une confusion terrible, rappelle-toi. Alors, si seulement tu peux avoir cette simple pensée, elle n'est pas vraiment si simple que ça, mais écoute bien, et puis après tu pourras réécouter encore le CD, ou réécouter encore l'enregistrement sur le net, écoute bien. Rien d'indigne de Dieu n'est digne de toi. Par sa volonté de Dieu. Ça, tu l'apprends par les Écritures. Alors, choisis dans ce sens. Et n'accepte rien que tu ne pourrais pas offrir à Dieu en étant persuadé que c'est complètement digne de lui. N'accepte rien. Aucune pensée, aucune chose, rien. De ce que toi, tu n'offrirais pas à Dieu. Si toi, tu étais Dieu et lui, l'homme. Tu vois, ce qu'il veut, ça monte à ton esprit. C'est dans ton esprit. Ça prend forme petit à petit par l'enseignement. Tu commences à comprendre ce que Dieu veut. Quand j'ai commencé à prêcher l'abondance, les gens pensaient que j'étais intéressé pour avoir de l'argent. Bien sûr qu'on peut prêcher l'abondance parce qu'on est intéressé par l'argent. Ce n'était pas mon cas. Ils m'ont fait un procès d'intention. Maintenant, le résultat est là. C'est autre chose. Nous vivons autre chose, quelque chose de grand. Et on parlait avec Marc ce matin en s'entraînant dans la muscule. Je disais, mais moi, j'ai ma conscience. Je sais pourquoi j'ai fait les choses. C'est vrai que ce que je faisais, ça ressemblait à quelque chose de faux. Il n'y a que ce qui est vrai qui ressemble à quelque chose de faux. Il n'y a que les vrais billets de 100 francs qui ressemblent à des faux billets de 100 francs. Et aussi pour les euros, ça marche, et les dollars aussi. Il n'y a que ce qui est vrai qui ressemble à du faux. Mais vous devez savoir, vous, est-ce que vous jugez, est-ce que vous acceptez les jugements des autres, est-ce que vous acceptez que votre ego vous tourmente, ou est-ce que vous voulez simplement croire dans la parole de Dieu et la mettre simplement en pratique. Je te le dis, mon frère, c'est le beau, c'est le grand, c'est le noble qui vit en toi. Vraiment, ton ego, c'est du chenil. Il faut qu'il meure. Voilà pourquoi la Bible dit, rends à Dieu ce qui lui appartient. Mais c'est quoi qui lui appartient? Mais c'est ton ego. Pas seulement ton argent. C'est ton ego. Rends à Dieu sa part et il te donnera tout de lui-même en échange. Alors comment ça s'appelle ça? Comment ça peut s'appeler ça? Eh bien ça s'appelle la marche vers l'unité. Ce que Dieu veut, c'est que tu lui donnes tout, et lui va tout te donner. Et alors là, vous allez pouvoir vous rencontrer. Parce que mon frère et ma sœur, Dieu lui-même est incomplet sans toi. Et plus tu prends conscience de la présence de Dieu en toi, plus, tu sais, on dit toujours, sa présence, bien sûr il est présent, mais il est présent, bien sûr il est présent partout. Mais n'a-t-il pas dit aussi que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Mais c'était pas, si tu ne crois pas qu'il est là quand tu es là, et si tu pries pour qu'il vienne, mais c'est une insulte, c'est un manque de communication, c'est un manque d'unité, c'est un manque de vérité, c'est un mensonge, c'est une erreur, c'est un truc de l'homme, c'est de la religion. Crois qu'il est là, qu'il entend, qu'il voit, qu'il sait, même déjà avant. Et ça te met dans la paix. Quoi qu'il arrive, Seigneur, ce qu'il veut, c'est mon bien. Il fait toute chose, il a fait toute chose belle en son temps. Même, il a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Bien que nous ne puissions pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin, mais on perçoit, notre esprit perçoit que c'est vrai. Et quand on dit ça, notre ego, allez, il ne faut pas me raconter des histoires, notre ego dit, c'est pas logique, ça ne tient pas la route, c'est pas normal. Oui, bon, d'accord. Alors, le monde ne pense pas comme là, comme ce que je vous dis ce soir. À qui vous voulez ressembler? À qui vous voulez ressembler? Alors, vous allez me dire, mais je n'ai pas le choix, je suis prédestiné. Tu es prédestiné à entendre ça, ce qui te donne la possibilité de saisir ta chance. Est-ce que c'est aujourd'hui que tu vas l'apprendre? Dieu le sait. Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu décides? Que c'est aujourd'hui? La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Qu'est-ce que tu fais de ça? C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tu en as fini avec ces incertitudes et toutes ces choses, et ta petitesse, et les jugements de ton ego, qui ne t'aime pas. Et tu vas de l'avant, et tu marches vers l'unité, qu'il soit un comme nous sommes un. Et tu seras un avec ton Dieu. Et c'est ça la vérité. C'est ça ce que Dieu veut. Et c'est là qu'il va pouvoir te rencontrer et que tu offriras un culte qui est agréable à Dieu par tes actions de chaque instant. À chaque instant, ayant conscience qu'il est là. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci Jésus de nous aider à bien comprendre ces choses. C'est juste de méditer. Pour moi, ça me semble clair, mais j'espère que pour mes frères et sœurs, c'est bien aussi. Et je te demande que, grâce à la technique maintenant de l'enregistrement, ils puissent écouter et réécouter ces choses, jusqu'à ce que cela devienne une évidence et que le Saint-Esprit prenne le dessus sur leur ego qui n'aime pas les évidences. Merci Seigneur Jésus de nous aider à aller de l'avant pour cette année qui va bientôt s'ouvrir devant nous. Nous ne savons pas ce qu'elle nous réserve, mais nous savons une chose Seigneur, c'est que tu fais toutes choses belles en son temps. Maintenant c'est maintenant, nous sommes heureux d'avoir terminé cette soirée autour de ta parole. Et maintenant, ce que nous allons faire, après avoir prié, c'est de manger ensemble. Nous nous réjouissons de pouvoir le faire. Nous te bénissons, nous savons que ce sera un bon moment. Et quoi qu'il arrive, même si l'un de nous devait mourir subitement, eh bien, c'est que c'est ta volonté. Nous n'avons pas de crainte, nous n'avons pas de peur. Nous savons qu'une seule chose compte, c'est que nous sommes entre tes mains. Quoi qu'il arrive, tu fais toutes choses belles en son temps. Amen. Amen.